Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle fut tout à la fois reine des deux Siciles, figure du Paris de la Belle Époque, l'égérie des écrivains et une femme à abattre. Elle est surtout une héroïne éclipsée par sa sœur légendaire. Stéphane Bern nous raconte la plus romanesque des sœurs de Sicile, Marie-Sophie en Bavière.
Oui, partons pour la ville de Gaète à l'automne 1860. Depuis les hauteurs de la citadelle, Marie-Sophie Amélie von Wittelsbach, 19 ans, contemple avec désolation les ruines fumantes du dernier bastion de son royaume des deux Siciles. L'an passé, la petite sœur d'Elisabeth de Wittelsbach, connue sous le nom de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, Sissi, a quitté sa Bavière natale pour épouser François, l'héritier du plus vaste royaume de la péninsule italienne. Mais contrairement à sa sœur, l'impératrice d'Autriche, Marie-Sophie a revêtu la couronne au plus mauvais moment. Et oui, la situation politique est loin d'être au bout fixe dans la future Italie. Depuis 10 ans, le vent de l'unification n'en finit plus d'ébranler les vieilles monarchies. À la tête de cette conquête historique, Victor Emmanuel II, roi du Piémont, qui entend bien régner sur la botte tout entière. Alors, à peine Marie-Sophie s'est-elle installée sur le trône de Naples, qu'elle et la famille royale en sont chassées par des hordes ennemies. Réfugiée à 70 km de là, elle compte bien se battre pour la préservation de son titre. Hors de question pour Marie-Sophie de se barricader derrière les murs de la citadelle. Pendant que son époux François II désespère, elle ne peut rester sourde aux souffrances de ceux qui luttent pour la sauvegarde de son royaume. C'est donc une reine téméraire qui troque sa crinoline pour un pantalon bouffant, et bien à l'aise dans sa tenue militaire, passant en revue ses troupes. Et ce n'est pas tout. La voilà qui allume la mèche des canons avec le feu de sa cigarette, qui visite les blessés dans des hôpitaux de fortune, qui se faufile à cheval entre les bombes. Toute la presse européenne se fait l'écho des actions valeureuses de cette toute jeune souveraine. Son attitude exemplaire lui vaut d'ailleurs le surnom d'héroïne de Gaète. Et certains n'hésitent pas à la comparer à Jeanne d'Arc. Pour une fois, Marie-Sophie ferait presque de l'ombre à sa célèbre grande sœur qui, pendant ce temps-là, peine à lutter contre le protocole viennois. Après 200 jours d'un siège destructeur, les souverains napolitains n'ont plus le choix. Ils doivent déposer les armes. La ville n'est plus qu'un monceau de gravats. Les troupes de Victor Emmanuel ont gagné. Le royaume d'Italie est proclamé. Alors nos deux têtes découronnées rassemblent le peu de biens qu'il leur reste et partent s'exiler à Rome. Là-bas, le pape Pie IX leur offre sa protection. Mais le répit est de courte durée pour Marie-Sophie. La capitulation du roi des deux Siciles n'a pas suffi aux partisans de l'unité qui rêvent de voir le couple Bourbon-Wittelsbach quitter la péninsule pour de bon. D'autant que le courage dont Marie-Sophie a fait preuve pendant le siège de Gaète n'a fait qu'attiser leur haine envers elle. Si bien qu'un jour, voyant que décidément on pose beaucoup de regards scandalisés, Marie-Sophie apprend que des petits malins se sont amusés à faire circuler des photographies obscènes sur lesquelles on la reconnaît. À Rome, à Turin et même à Paris, sang bleu et cardinaux rouges ont trouvé dans leur boîte aux lettres des clichés de la reine complètement nue. Il s'agit en fait de grossiers montages où l'on croit voir l'ancienne reine en train de batifoler avec un jeune homme qui n'a pas les traits de François II. Cette humiliation est insupportable pour Marie-Sophie qui se pose 1000 questions. Et si les commanditaires de cette grossière farce savaient? Car Marie-Sophie n'est pas tout à fait innocente. Elle est folle amoureuse. Oui, mais pas de celui à qui elle a pourtant juré fidélité. Il faut dire qu'elle n'a jamais été heureuse en ménage. 2 ans après son union avec François, aucun héritier n'a pointé le bout de son nez. Il se pourrait même que le mariage n'ait jamais été consommé. Oui, ce pauvre roi détrôné souffrirait d'un phimosis.
C'est pas possible. Mais c'est vous qui leur donnez le phimosis, Stéphane.
Non, c'est moi qui opère, c'est différent. C'est une difficulté médicale qui l'empêcherait d'engendrer au fond. C'est un frein, si vous voulez, du prépuce qui ne laisse pas passer le gland. Voilà,
oui.
En gros, pardon,
ah oui,
mais d'être aussi
c'est bien d'être précis. Sinon, on ne comprend pas pourquoi.
Voilà, donc ça freine. Alors, avide d'amour et de plaisir, Marie-Sophie est tombée dans les bras d'un autre, Emmanuel de Lavaïs-Châteaubourg, un jeune Parisien enrôlé parmi les zouaves pontificaux. Comprenez que ce bel amant vient à la rescousse du Saint-Père afin de contrer la menace que représentent les défenseurs de l'unité italienne. Ces deux-là se retrouvent dans le palais Farnèse, une merveille de la Renaissance, hein, en plein travaux. Un contexte tout à fait pratique pour les amants. Ils peuvent s'adonner sans crainte au plaisir de la chair, alors que le bruit des marteaux résonne. Mais à force de tenter le diable, ce qui devait arriver arriva.
Aïe.
Après une entrevue délicieuse, un soir de carnaval, Marie-Sophie découvre qu'elle est enceinte. Et si l'on en croit la rumeur, son mari comprendra bien vite que l'enfant à naître n'est pas de lui. Une seule solution s'offre à la jeune Bavaroise. Elle doit regagner sa terre natale pour obtenir l'aide des siens. Après un conseil de famille houleux, chez les Wittelsbach, c'est le branle-bas de combat. Alors que la presse s'inquiète de l'absence prolongée de la jeune reine à Rome, on répand une version officielle. La pauvre Marie-Sophie est pulmonaire depuis qu'elle a inhalé de la poudre à canon pendant le siège de Gaète. Elle a donc besoin de respirer le bon air de la Bavière, loin de l'atmosphère étouffante de Rome. Durée de cette cure ? Un peu plus de 9 mois. Enfin, si l'on écoutait Marie-Sophie, cette cure se transformerait en déménagement. Voilà qu'elle annonce à son clan que plus jamais elle ne retournera auprès de son mari. Elle en a assez de tous ces faux-semblants protocolaires. Or, si la reine fait annuler son mariage et qu'en plus on découvre qu'elle a accouché d'un enfant né de la cuisse gauche, c'en est bel et bien fini des espoirs de revoir un jour François II sur son trône de Naples et des deux Siciles. Un roi sans reine et sans dauphin, voilà du pain béni pour cet usurpateur de Victor Emmanuel de Savoie. Sissi doit intervenir. Elle est la seule qui puisse trouver les mots justes pour raisonner sa jeune sœur. Et les allers-retours de l'impératrice pour aller voir Marie-Sophie auraient coûté cher aux contribuables plusieurs centaines de milliers de florins. Oui, forcément, qui dit impératrice dit voyage de luxe, mais ces heures de négociation ne sont pas vaines. Quelques semaines après avoir donné naissance à une petite fille, Marie-Sophie réapparaît à Rome au bras de son sinistre époux. La mort dans l'âme, elle a accepté d'abandonner son enfant pour répondre à son devoir de reine. Pourtant, les dés sont déjà jetés depuis longtemps. François II ne régnera plus jamais sur les deux Siciles. Alors que le Saint-Siège tombe aux mains de Victor Emmanuel de Savoie, il est obligé de fuir l'Italie pour de bon. Après quelques mois de colocation avec Sissi et François-Joseph à Schönbrunn, Marie-Sophie s'installe durablement à Paris. Et ce n'est certainement pas un hasard, Mathieu. Je vous l'ai dit, son grand amour, Emmanuel Lavaïs, est originaire de la ville Lumière. Et quelques années plus tôt, c'est à lui que Marie-Sophie a confié le fruit de leurs amours interdites. Elle s'appelle Daisy. 10 ans après cette séparation déchirante, la petite fille continue de grandir sous la grisaille parisienne. La capitale française sera donc le lieu de leur retrouvaille secrète. C'est aussi un lieu de rencontre pour notre héroïne qui devient une figure incontournable de la Belle Époque. Et les aventures de jeunesse de la Bavaroise n'en finissent plus d'inspirer les écrivains. Sous la plume de Marcel Proust, son voisin, Marie-Sophie devient même un personnage à la recherche du temps perdu. La vie passe ainsi. Et voilà qu'un beau matin, Marie-Sophie, 59 ans, apprend dans le Figaro que le royaume d'Italie est en deuil. La veille au soir, 3 balles ont transpercé le corps du roi Humbert Ier. Le fils de Victor Emmanuel montait dans sa voiture au sortir d'une remise de prix. L'assassin affirme avoir agi par haine de l'institution monarchique. Marie-Sophie ne peut réprimer un petit sourire coupable. 40 ans après, la voilà vengée des usurpateurs qui l'ont détrônée à Gaète.
Europe 1. Historiquement vôtre.